Snake Plissken, c'est génial. Vous ne me croyez pas? Vous allez voir.
Carte d'identité. Nom:
SD Plissken.
Surnom:
Snake Plissken.
Métier:
soldat.
Signe distinctif:
borgne, un cobra tatoué sur son abdomen.
Fonction:
personnage de cinéma.
Interprète:
Kurt Russell.
Première apparition:
1981. Snake Plissken apparaît pour la première fois en 1981 dans le film Escape from New York de l'américain John Carpenter, New York 1997 en VF. Et quand on le découvre à l'écran, avec ses cheveux longs, un bandeau de pirate sur l'œil gauche, une veste en cuir et un pantalon de camouflage, il est emprisonné. Et oui, Snake est un ancien héros de guerre devenu un criminel dans les États-Unis du futur en 1997. Oui, à l'époque de la sortie du film, 1997, c'est le futur. Dans ce futur, la ville de New York, plus précisément l'île de Manhattan, est devenue une prison de haute sécurité à ciel ouvert. On y abandonne tous les prisonniers qui se débrouillent tout seuls. Pas de gardien payé, pas d'entretien des bâtiments, pas de frais pour l'État. Mais, pas de chance, l'avion du président des États-Unis s'écrase à New York. Il faut aller le rechercher. Et c'est Snake Plissken qu'on envoie pour le récupérer.
C'était un accident. About an hour ago, a small jet went down inside New York City. The president was on board.
President of what?
That's not funny, Plissken. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man.
24 hours, huh?
I'm making you an offer.
Bullshit.
Straight, just like I said.
I'll think about it.
No time. Give me an answer.
Get a new president.
Ce dialogue illustre parfaitement la personnalité de Snake, l'anti-héros parfait. Il se moque du président de son pays et il n'a aucune envie de participer à une mission de sauvetage, contrairement aux autres héros de cinéma. Bon, il devra bien aller sauver le président, on lui laisse pas trop le choix, mais il se vengera. Et il reviendra. 16 ans après son aventure à New York, Snake doit aller sauver un autre président dans une autre île prison, Los Angeles. C'est le point de départ du film de 1996, Escape from LA, Los Angeles 2013 en VF. Toujours de John Carpenter, toujours avec Kurt Russell, dans le rôle d'un Snake Plissken toujours aussi anti-héroïque et toujours aussi politiquement incorrect.
You gotta smoke.
The United States is the no-smoking nation. No smoking, no drinking, no drugs, no women. Unless, of course, you're married. No guns, no foul language, no red meat.
Land of the free.
Snake est le rebelle ultime, celui qui se moque des puissants et du pouvoir. Un super-héros sans super-pouvoir, et il est génial.
Call me Snake.
Merci, Gorian. Et pour suivre Snake Plissken au plus près du danger, j'ai deux fines gâchettes à mes côtés ce matin. Bonjour, Stéphane Boulet.
Bonjour, merci de l'invitation.
Mais on est ravis. Vous êtes l'auteur de l'œuvre de John Carpenter, Les Masques du Maître de l'Horreur, paru chez Third Edition, et au rayon Circuit Court, produit local. Il y a Nicolas Beuitars avec moi. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Cynthia. Bonjour à tous.
Côtelier de la présente émission, journaliste cinéma, et qui aime tellement, tellement Carpenter qu'il a décidé de rogner sur ses vacances pour venir nous en parler.
C'est tout à fait ça.
Et on l'en remercie. Alors, on va partir, messieurs, de ce qui fait la raison même de votre présence ici ce matin. Pourquoi en particulier faut-il accorder du génie à Snake Plissken dans l'œuvre de Carpenter? Stéphane, peut-être pour commencer?
Tout simplement parce que Snake Plissken, dans la grande cosmologie de Carpenter, c'est peut-être effectivement la première fois qu'il va avoir un héros qui, pas qui lui ressemble en tout cas, qui ressemble à ce qu'il voudrait être en fait. C'est un peu l'idéal projeté, on va dire, de Carpenter. Voilà, dans le sens où effectivement, dans ses précédents films, on avait par exemple Laurie Strode, l'héroïne d'Halloween, qui était évidemment pas une projection de lui. The Fog, qui était un film plutôt choral, on va dire. Mm-hmm. Et Asso, où les personnages en fait étaient en fait deux personnages scindé, en fait, Snake Plissken, voilà, c'est la première fois où finalement il va se projeter dans ce qu'il aimerait être, l'héros idéal, dans sa propre projection, c'est-à-dire effectivement cette espèce de personnage, comme ça a été très bien dit dans la présentation, très indépendant, un peu misanthrope, hein, pour le moins, et en conflit avec l'autorité, quoi.
Ouais. Nicolas?
Snake Plissken est intéressant, il est même génial, cette créature est géniale parce que son créateur est génial. John Carpenter, on est en 1981, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une voie royale à ce qui va devenir le cinéma des années 80, c'est ce cinéma d'action pure et dure, avec ses héros d'action pure et dure, c'est Monsieur Muscle. Snake Plissken, c'est le premier Monsieur Muscle de cette décennie-là. Ouais. Alors, c'est pas Schwarzenegger, c'est pas Stallone, c'est pas Bruce Willis, mais quand même, ils sont tous tirés de la cuisse de Snake Plissken, qui en quelques phrases, en fait, il a pas beaucoup de texte, hein, le Kurt Russell dans ce film, mais en quelques phrases, le mythe est là, la légende est là. Et il est juste parfait et il va en influencer plein d'autres. Voilà pourquoi, entre autres, il est génial. Plus d'autres choses dont on va certainement parler.
Alors, je vais aller chatouiller un peu les orteils, justement, du Demiurge. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, de Mad Max, qui est sorti 2 ans avant ?
Il y a des ressemblances. Mm-hmm. Mad Max, pour moi, est plus un drame. Alors, voilà, dit comme ça aujourd'hui, ça pourrait quand même être complètement fou. Mais oui, c'est plus un drame. Ici, on est vraiment, là aussi, New York 1997, un film d'atmosphère, un film sur la peur, un film terriblement glauque, avec ce anti-héros mm-hmm. qui sort du lot. Pour moi, Mad Max, c'est plus un drame. Ici, on est plus dans un film d'atmosphère, d'action, même s'il n'y a pas énormément d'action, mais ce n'est que le début, je vous dis, c'est vraiment la voie royale pour tout le reste.
Stéphane ?
Oui, non, effectivement, c'est vrai que le personnage de Mad Max mm-hmm. a une influence sur Snake Plissken, ne serait-ce qu'effectivement par le look, par ce côté un peu désabusé, mais effectivement, c'est vrai aussi qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, parce que l'image qu'on a aujourd'hui de Mad Max, en fait, c'est l'image qui est installée par le 2, qui sort donc après, parce qu'en fait, le premier Mad Max n'est pas à proprement parler un film d'action post-apocalyptique, en fait, c'est dans Mad Max, la ligne temporelle est assez mal définie. On ne sait pas exactement quand ça se situe. Il y a encore des services de police, il y a encore des hôpitaux. Voilà, c'est pas le monde post-apocalyptique. Et effectivement, le cœur de Mad Max, c'est un homme dont la vie bascule suite à une agression criminelle, en fait. Mm-hmm. Et on n'est effectivement pas tout à fait sur la même modalité. Après, de toute façon, les origines de Snake Plissken, elles remontent bien au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, pour John Carpenter, c'est une façon de réaliser déjà son fantasme de cinéaste qui n'a jamais pu accomplir, c'est-à-dire réaliser un western. Faut savoir qu'effectivement que Carpenter, qui a toujours été un homme à contre-courant, quand il arrive au début des années 70 à Los Angeles et qu'il rentre dans le milieu du cinéma, lui ce qui l'intéresse c'est faire des westerns, c'est-à-dire le genre que plus personne ne fait et que plus personne n'a envie de faire. Lui c'est ça qui l'intéresse. Et d'ailleurs Asso, son premier film, est un remake d'un western qu'il fait de la sauce moderne parce que simplement il n'avait pas le budget. C'est plus simple de trouver des voitures que des chevaux. c'est des raisons pragmatiques qui l'ont poussé à faire un western moderne. Et on retrouve cet héritage-là dans Snake Plissken, qui est un héros de western, en fait. Et c'est marrant parce que la principale inspiration de Carpenter, pour lui, c'est cette espèce de vision d'un John Wayne perverti, en fait. Voilà, c'est un peu le paradoxe de Carpenter, qui est un homme qui aujourd'hui est, on va dire, très identifié comme quelqu'un de plutôt à gauche, est plutôt proche de ces idées-là. En fait, c'est un fan inconditionnel de John Wayne, qui est, pour le coup, est une figure plutôt réactionnaire. Et en fait, Snake Plissken, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a à la fois l'aura, le charisme d'un John Wayne, et en même temps, c'est comme si c'était un John Wayne brisé, en fait.
Ouais.
C'est un John Wayne qui a été brisé par quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si l'origine du scénario, enfin l'idée première de Carpenter, remonte au Watergate, en fait, au scandale Watergate, donc avec les écoutes du Parti démocrate par Nixon. Mm-hmm. C'est le moment où finalement le président des États-Unis tombe de son piédestal, et on se rend compte, du coup, que c'est un homme plutôt minable, et c'est ça qui pousse Carpenter à écrire les premiers jets de New York 97 en tant que scénario, et le personnage de Plissken naît de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si à un moment donné John Wayne se rendait compte qu'il avait été berné toute sa vie et qu'il travaillait pour les mauvaises personnes.
Ouais, on va revenir d'ailleurs sur le contexte politique de l'époque, mais Nicolas, vous corroborez Plissken, c'est un lonesome cowboy?
Oui, c'est le John Wayne moderne, et effectivement Carpenter a toujours fait des westerns modernes, même quand il s'attaque aux vampires par exemple, avec de très merveilleux films aussi. Et à tel point que Plissken, c'est un John Wayne moderne. Rappelez-vous, $100 pour un shérif, mm-hmm. avec John Wayne. John Wayne porte un bandeau sur l'œil.
Tout à fait, ouais.
Et on retrouve ce même bandeau pour ce film, $100 pour un shérif. John Wayne a quand même reçu l'Oscar. Donc voilà, la filiation, elle est réellement là. Il est même habillé comme un soldat confédéré, avec ce pantalon de militaire, cette veste en cuir. Voilà, il y a ce rappel-là, ce holster, parce qu'il a un double holster.
Ouais.
Donc voilà, c'est du western moderne. pur et dur.
Alors, on est en 80, hein, on le rappelle quand le film sort. C'est le début de l'ère Reagan, c'est le procès des vétérans du Vietnam contre Dow et Monsanto, les fabricants de l'agent orange, procès qu'ils vont perdre, effectivement. Et on l'a dit, Snake Plissken, c'est vraiment c'est l'ancien soldat d'élite, c'est le repris de justice, dégoûté du système, c'est le solitaire parmi les solitaires, c'est un anti-héros, et c'est un héros carrément anti-américain. Ça ne pouvait marcher que dans cette fenêtre de tir-là, parce que le film a été quand même un succès commercial et critique, ce qui est finalement peut-être une exception chez Carpenter, où ces films ont souvent du mal en fait à gagner la reconnaissance, en tout cas sur le moment.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est le film qui sort au bon moment pour Carpenter, et vous avez très bien souligné, c'est quelque chose qui va lui arriver assez peu fréquemment, hein, finalement, ne serait-ce que dès 82, hein, The Thing, voilà, c'est le film qui est sorti pile au mauvais moment, comme quand il fallait pas. Mais c'est vrai que là, effectivement, on était dans la queue de comète du Watergate, donc avec quand même une prise de conscience du peuple américain. Voilà, on sortait quand même d'une période très compliquée avec la guerre du Vietnam, avec voilà beaucoup de remise en question du pouvoir, et on était avant les années Reagan, qui d'un seul coup, voilà, les années Reagan et le cinéma avaient participé, hein, évidemment. C'est le retour justement de l'Amérique triomphante. Voilà, du Make America Great Again, bah, pour le coup, c'est une phrase qui avait été prononcée en premier par Reagan. Mm-hmm. Voilà, donc on est avant ça, on est après Watergate, donc effectivement, c'est le bon moment pour justement aborder cet angle de l'histoire, voilà, d'avoir cette espèce de d'États-Unis dystopique où le président est littéralement tourné en dérision. Voilà, c'est le président joué par Donald Pleasance. En plus, ça faisait marrer Carpenter parce que Donald Pleasance, qui est un acteur britannique qui avait beaucoup de mal à cacher son accent britannique, ça l'amusait énormément d'avoir cet acteur avec cet accent-là pour jouer un président des États-Unis. C'était déjà, rien qu'en termes de casting, c'était déjà voilà une forme d'irrévérence. Mais en plus, voilà, le président est montré sous son pire jour, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est incapable, littéralement, c'est-à-dire qu'il ne fait rien du film, il est trimballé de droite à gauche, il est lâche, il est peureux, et quand à un moment donné, il peut avoir un moment d'élévation, on se rend compte que finalement, il fait les pires choix. Et il sacrifie des personnes sans même avoir l'once d'un remords ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, à la base, le scénario de New York 97, quand Carpenter l'écrit, il commence à proposer au studio, il est remballé parce qu'en fait, le scénario de base allait plus loin encore dans la critique du président. C'est-à-dire que voilà, il avait dû trouver le bon curseur même avec Kurt Russell. À un moment donné, il y avait une scène où Kurt Russell, enfin, Snake Plissken, devait jeter son mégot au visage du président. Et Kurt Russell a fait non, c'est un peu, jamais je ne jouerai ça. Je peux faire ce que tu veux, mais ça, je refuse de le jouer. Donc voilà, il fallait trouver quand même le bon curseur, mais effectivement, trop tard, il aurait fait ce film-là à l'orée de Ronald Reagan, au moment où Top Gun cartonnait. Je pense qu'effectivement, ça aurait été un four complet.
Ouais. Et justement, on va en reparler de Kurt Russell, Nicolas, parce que le personnage même de Snake Plissken doit énormément à Kurt Russell, qui va beaucoup investir de sa personne dans ce personnage.
Et il vient de loin, le Kurt, parce que le Kurt, on l'a découvert gamin dans des productions Disney. Alors, oui, c'est le Justin Timberlake de l'époque, c'est le Britney Spears de l'époque.
Et les studios n'en voulaient pas au départ.
Et les studios n'en voulaient pas parce qu'il avait cette étiquette Disney collée à la peau. Et pourtant, c'est intéressant en fait, cette école Disney, cette étiquette Disney. Pourquoi ? Parce que ce sont des films ultra préparés qui demandent énormément d'investissement. Donc Kurt Russell, en fait, il a appris son métier très jeune. Il a appris à travailler, il a appris à connaître son texte par cœur, il a appris, vraiment, il s'est investi dans ses années Disney. Et tout ce travail-là est récupéré par John Carpenter, qui va magnifier, bien sûr, Kurt Russell. Alors, il le fait dans deux films.
Oui.
Juste avant cela, il y a Elvis Presley, qui est un téléfilm aux États-Unis, mais qui est sorti chez nous en salle.
Le roman d'Elvis, je pense.
Le roman d'Elvis. Alors, il y a le Elvis de Baz Luhrmann. C'est super, c'est rigolo. Mais si vous voulez vraiment connaître la vie d'Elvis, revoyez ou voyez tout court la version de John Carpenter, parce que ça, c'est de la pure interprétation. On découvre un acteur qui sait tout faire, chanter, danser, jouer la comédie. Et ici, il apporte un côté plus sombre, plus dramatique à toute cette palette de jeux. Et c'est ça qui est intéressant avec un acteur comme Kurt Russell. Et d'ailleurs, il va en faire quelques-uns, hein, des films avec John Carpenter. Et effectivement, Stéphane parlait de l'excellent La Chose,
oui, The Thing,
qui sort en 82, qui sort malheureusement en 82. Pourquoi ? Parce que ce film qui présente un extraterrestre terriblement méchant sort deux semaines après un autre extraterrestre terriblement gentil,
c'est
E.T. Et à l'époque, on ne voulait pas voir d'extraterrestre terriblement méchant parce qu'on avait connu E.T. Donc Carpenter...
Spielberg 1, Carpenter 0.
Oui, alors que Carpenter, quand même, est un pré-Spielberg. C'est-à-dire que Carpenter va toujours, je le dis, hein, ouvrir la voie, mais à Steven Spielberg. Oui. Ici, il fait un héros d'action pur et dur, on aura Indiana Jones après. Il fait de l'extraterrestre, on aura de l'extraterrestre après. Enfin voilà. Donc voilà, Carpenter, c'est ça. Kurt Russell, c'est ça aussi.
Ouais. Il a d'ailleurs cette boutade, il dit voilà, en Europe, voilà, en France, je suis un cinéaste, en Allemagne, je suis un auteur, en Grande-Bretagne, je suis un compositeur, aux États-Unis, je suis un raté. Et il y a néanmoins un côté voilà, très prémonitoire presque hein, chez Carpenter, parce que quand on regarde voilà, New York 1997, on pense à 24 heures chrono, Jack Bauer, on pense aussi, et c'est moins drôle, à Guantanamo, à ces îles prison, on pense à Demolition Man plus tard, en mode pastiche, etc. Il est visionnaire, Carpenter, il a un côté prémonitoire dans ce qu'il écrit, ou est-ce qu'il s'en rend pas compte, Stéphane ?
Alors, je pense qu'il ne s'en rend pas compte, dans lui, en tout cas, en tant que cinéaste et en tant qu'auteur. Il faut savoir que Carpenter a un rapport assez étrange par rapport à son propre travail. Déjà, il n'aime pas écrire, mais il le fait, parce que en fait, personne lui confiait le projet, donc la meilleure façon finalement d'être servi, c'est d'être par lui-même. Donc déjà, écrire, c'est quelque chose qui l'agace un petit peu, mais il le fait parce qu'il a bien conscience que c'est plus simple et c'est moins cher aussi. Il n'a pas conscience, mais les faits sont quand même là, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, j'ai fait la présentation de Dark Star, donc son tout premier film qu'il avait coécrit avec Dan O'Bannon, donc Dan O'Bannon, l'homme qui fera Alien juste derrière. Voilà, quand on regarde Dark Star, en fait, donc une sorte de comédie de science-fiction, pastiche, qui sort comme ça au tout début des années 70, alors que c'est pas du tout la mode, c'est-à-dire que on est avant la guerre des étoiles, on est après 2001, c'est-à-dire qu'on est au moment où le film de science-fiction, c'était soit des séries B des années 50, soit 2001, c'est de l'espace par Stanley Kubrick, une espèce de truc absolument grandiose, etc. Et il n'y a pas encore ce côté très populaire et à la fois pas méprisé, parce que les séries B des années 50 avaient quand même cette image très méprisante. Mmh. Voilà, on n'est pas encore avant la popularisation de Star Wars. Et lui, déjà, il fait une sorte de pastiche complètement délirant en mélangeant justement 2001 et Docteur Folamour de Kubrick. Et en fait, le film est produit dans des conditions très particulières, hein, film d'étudiants, etc. Mais il sort en fait avant finalement quelque part que ce soit la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on regarde les films de science-fiction et à travers les films de super-héros aussi, il y a une grande composante métafilmique et presque à la blague, hein. Enfin, suffit de voir effectivement la tournure des derniers Star Wars, effectivement que ce côté on va faire des blagues sur Star Wars au sein de Star Wars, etc. Tout ça c'est très à la mode aujourd'hui, sauf que Carpenter quand il sort son film en 74, c'est pas du tout à la mode, et à chaque fois il va être comme ça, c'est-à-dire que c'est celui qui va propulser le slasher au rang de locomotive du cinéma d'horreur des années 80 avec Halloween. Alors il n'invente pas complètement le genre, puisqu'il y a eu d'autres essais avant lui, mais c'est celui qui va, voilà, qui va ouvrir la voie, voilà, et ainsi de suite. À chaque fois, il va procéder de la même façon quand il fait Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin en 86. Il le sort la même année que Top Gun. Et clairement, le public américain, ça n'intéresse pas de regarder un film où le héros, donc joué par Kurt Russell, est un abruti fini qui passe la moitié du combat final assommé parce qu'il est trop bête. En fait, littéralement, il s'assomme tout seul. Et alors que ça, c'est le genre de blague qui aujourd'hui, fait des recettes dans les films Marvel, par exemple. Mm-hmm. Donc voilà, à chaque fois, il a cette espèce de décalage. Il propose quelque chose qui est soit un peu avant-gardiste, soit un peu décalé, et qui va être réhabilité ou récupéré plus tard. Il y a cette fameuse phrase, en fait, cette anecdote de Guillermo del Toro, grand fan de Carpenter. Guillermo del Toro, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand il est fan de quelqu'un, il peut en parler pendant des heures et des heures. Enfin, c'est un type passionnant à écouter. Et il y a cette anecdote, en fait, à un moment donné, où à l'occasion de la série Master of Horror, donc sur laquelle Carpenter et del Toro ont travaillé, ils sont ensemble au restaurant, et Guillermo del Toro dit à Carpenter, The Thing, c'est absolument génial. Les gens ont pas aimé à l'époque, mais aujourd'hui, ça doit être génial de voir que tout le monde adore ce film, tout le monde s'est l'air approprié. Et Carpenter qui le regarde et qui lui fait, mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi? Et voilà. Carpenter, c'était un peu ça. Je pense pas qu'il a la conscience, je sais même pas s'il arrive à digérer, mais en tout cas, les faits sont là, c'est-à-dire qu'il est toujours en décalage et souvent, il parle de choses avant les autres et que ça devient culte par la suite. Quoi.
Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est inévitable quand on parle de Carpenter, c'est la musique, évidemment. Il y a un côté très artisanal, comme on le disait, parce que vu que personne ne voulait lui confier de travail, il a tout fait lui-même, y compris la musique, vu qu'il vient de parents musiciens, il est compositeur.
C'est ça.
On va se la remettre dans l'oreille, donc cette musique, le thème principal de New York 1997. De quoi elle nous parle, cette musique, Nicolas ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Parce que là, on est encore une fois plus dans le western que dans l'horreur.
C'est un créateur d'ambiance. Mm-hmm. John Carpenter, c'est un créateur d'ambiance, il fait des films d'ambiance. Et ici, ce New York 1997, on parle de la peur, je le disais, hein, c'est vraiment ça, c'est viscéral, c'est ce New York apocalyptique, post-apocalyptique, glauque, où tout est détruit, tout est sale. Eh bien, la musique de John Carpenter, elle magnifie cela et elle donne encore plus d'ambiance, elle fait encore plus peur. Et Tout comme il nous a fait faire encore plus peur avec, avec sa musique, ses trois notes de synthé pour Halloween qu'on entend dès le début. Il plonge encore plus ses spectateurs dans cette angoisse, dans ce qu'il veut nous raconter. Et la musique chez Carpenter, c'est un personnage. Mm-hmm. C'est un personnage à part entière. Il faut compter dessus et il le fera pour chaque album. Et même quand il... Bon, ici, Halloween revient au cinéma avec cette nouvelle trilogie. Le troisième sort bientôt. Il coproduit. Il n'est plus vraiment dans le processus, mais la musique est encore là. Sa musique est encore là.
Mais justement, on parlait de l'angoisse, on parlait de l'horreur. Il est souvent cité comme un maître de l'horreur, un maître de l'angoisse. Elle est où, l'angoisse, dans New York 1997 et dans la suite, LA 2013, Los Angeles 2013, Stéphane ?
Elle est à plusieurs niveaux. Déjà, effectivement, dans le premier, il y a toutes ces séquences où, à un moment donné, Snake se retrouve dans la rue et il y a des espèces de personnages qui sortent des égouts et qui se mettent à l'attaquer, comme des hordes de zombies. Il faut savoir que Carpenter a été excessivement marqué par La Nuit des Morts Vivants de Romero. Hein. Mm-hmm. Il y a ces passages-là, effectivement, très étranges, avec ces silhouettes qui sortent et qui attaquent de partout. L'angoisse, elle est aussi tout simplement l'angoisse, pas existentielle, mais en tout cas politique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a ce personnage-là qui est dans un monde qui est sur le point de s'effondrer à chaque fois, c'est-à-dire que l'enjeu dans le premier, c'est retrouver le président, mais il y a aussi un discours qu'il est censé faire aux Nations Unies sur la paix dans le monde. Dans le second, il y a toute une histoire autour d'un dispositif de défense globale de la planète, etc. C'est-à-dire que on est sur un monde dont on comprend qu'il est sur le point de s'écrouler, et Snake Plissken, c'est un personnage qui, en fait, ne comprend pas l'intérêt de sauver le monde, en fait. Et il y a cette espèce de regard sur cette humanité qui se délie et qui est en train de se détruire, et lui, en fait, il tombe parfois sur des gens qui essaient de lui expliquer ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire, etc. Sauf que lui, en fait, plus il avance et moins il comprend l'intérêt de sauver le monde, à tel point que, d'ailleurs, à la fin de Los Angeles 2013, il éteint littéralement le monde avec la télécommande. Donc c'est l'angoisse qui est presque existentielle, on va dire, quelque part. Mais c'était ce sentiment que c'est un type qui n'est pas à sa place, que le monde court à sa perte, et qu'en fait, quelque part, il l'a bien cherché, quoi.
Nicolas ?
Alors, il ne veut pas sauver le monde, et pourtant, il va le faire. Il veut d'abord se sauver lui-même. Il est terriblement cynique, mais c'est comme tous les beaux personnages, ceux qu'on aime au cinéma, ceux qui évoluent, évidemment. Donc, au départ, il ne s'intéresse pas à ce président, il ne s'intéresse pas à cette mission. Pourtant, on l'oblige. Il ne s'intéresse qu'à sauver sa peau, et en sauvant sa peau, il va sauver le président et le monde. Et puis, l'angoisse, elle vient de la première phrase du film. Alors, le film est tourné en 81, mais l'histoire se démarre en 88, donc on est dans un futur proche, et la première phrase du film, c'est « Voilà, en 1988, la violence a augmenté de 400%. » Et en 1997, New York est devenue une prison à ciel ouvert. Donc, il y a cette double tension, cette double menace, cette double angoisse en disant « 88, là, c'est dans bientôt, et le monde va s'accélérer dans cette violence inarrêtable, et puis dans 15 ans, c'est trop tard.
»
C'est trop tard.
Mais justement, on disait en début d'interview que Snake Plissken, c'est l'incarnation rêvée de Carpenter. Carpenter, il serait nihiliste, au fond ?
Il y a un peu de ça, quand même. Mais positif, quand même, puisqu'il nous propose chaque fois un héros. Il nous propose des mondes en passe d'être détruit, mais il nous propose à chaque fois le héros pour sauver ce monde.
Stéphane ?
Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est pareil, je ne suis pas sûr que Carpenter ait poussé sa réflexion jusqu'à intégrer le nihilisme en tant que concept philosophique. Ceci dit, effectivement, il y a en tout cas un véritable pessimisme chez Carpenter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces personnages, même s'ils sont désabusés, il y a ce côté-là. Et effectivement, au départ, c'est quand même un héros au sens classique pour devenir un anti-héros par choix. Et donc, même à travers ce personnage complètement désabusé, à un moment donné, il va trouver une espèce de force vitale pour continuer malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a un côté presque absurde. Hein. C'est-à-dire que c'est un type qui finalement voit pas l'intérêt du monde qui l'entoure et se demande pour qu'est-ce qu'il fout là. Et finalement, il a quand même cette espèce de volonté de vivre et cette volonté malgré tout de défendre ce qui est juste. C'est-à-dire que au fur et à mesure de ses pérégrinations dans ce New York dystopique, il va croiser des personnages et en fait, malgré lui, il va s'attacher à ses personnages et faire en sorte d'essayer de les sauver. Et en fait, c'est tout le héros de Carpenter, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont plongés dans un monde extrêmement sombre, extrêmement pessimiste. Et d'ailleurs, beaucoup de films de Carpenter se terminent en fait excessivement mal. Et malgré tout ça, en fait, on a des personnages qui essayent de lutter pour quelque chose de mieux. Voilà. Et je sais pas si c'est tellement nihiliste parce qu'en fait, je pense pas que Carpenter souhaite la destruction du monde, en fait. C'est plus un pessimiste qui se dit, ce serait quand même mieux si le monde allait moins mal, en fait. Et le credo Carpenter, c'est un pessimiste qui aimerait que ça aille mieux, et qui au fond de lui se dit bon, je suis pas sûr qu'on y arrivera quoi.
Voilà, bah, le débat est lancé en tout cas, et nous on arrive déjà à la fin de cette interview. On espère qu'on vous a donné envie en tout cas de vous replonger dans l'œuvre de Carpenter et dans ces deux films, New York 1997 et Los Angeles 2013. Merci Nicolas Beutard d'être passé pour en parler avec
c'est
nous
toujours
ce
un
matin
bonheur.
Et merci à vous Stéphane Boulet, on rappelle que vous êtes l'auteur de l'œuvre de John Carpenter, Les Masques du Maître de l'Horreur, paru chez Third Edition. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
La première,
9h-10h,
c'est génial.